Bonjour, mes frères. En début de semaine, je rentrais du déjeuner à pied vers le siège social lorsque j'ai croisé la plus belle araignée que j'ai jamais vue. Elle avait un abdomen très large, en forme de globe. Je crois qu'elle était orange vif, avec quelques marques noires. Je n'avais jamais vu une araignée comme celle-là de ma vie. Et j'ai appris grâce aux recherches de quelqu'un sur Google Lens qu'il s'agissait d'une araignée orbiculaire marbrée, Marbled Orbweave Spider. Son abdomen ressemblait vraiment à un marbre. Elle était magnifique. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'elle est en fait très commune dans l'Ohio, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. J'ai donc fait quelques recherches et j'ai découvert que, premièrement, elle est nocturne, mais que, deuxièmement, elle diffère de la plupart des araignées en ce sens qu'au lieu de rester sur sa toile, elle construit un nid avec de la soie et des feuilles, puis suspend une ligne qui va jusqu'à sa toile pour surveiller les proies qui viennent s'y poser. C'est très particulier. C'est une araignée différente. Certains diront qu'elle a évolué. Nous savons bien sûr qu'il n'en est rien. Cette araignée orbiculaire marbrée fait preuve d'une certaine intelligence. Cela m'a rappelé des vidéos que j'ai vues. Quelqu'un a-t-il entendu parler de chasser le border collie? Certains d'entre vous peut-être. Il s'agit d'un chien qu'un homme a dressé à identifier plus d'un millier de jouets différents, y compris les formes verbales associées à ces jouets. Allez chercher le jouet qui saute. Et ainsi de suite. Ces animaux sont plus intelligents que nous le pensions auparavant. Il y a aussi Bunny the Dog, un chien célèbre qui, à l'aide d'un tableau et de différents boutons, peut former des phrases et communiquer avec ses maîtres. J'ai vu une vidéo où Bunny the Dog disait « Joue avec papa ». En d'autres termes, elle voulait jouer avec son propriétaire, l'homme de la maison. Et la maîtresse de maison a répondu, il est au travail. Tu veux jouer avec maman? Et le chien est allé dire, joue à tirer. Et la mère, je dirais, du chien est allé chercher le jouet à tirer, et le chien était prêt à jouer à tirer avec maman plutôt qu'avec papa. Hier encore, j'ai vu une vidéo d'un chat qui apportait dans la maison une souris qu'il avait tuée et attrapée. Grimpait sur le comptoir et la mettait dans la soupe de son propriétaire qui mijotait sur la cuisinière. Le chat avait manifestement vu que c'était ainsi que les humains cuisinaient, voulait apporter son cadeau et l'ajouter à la marmite. Bien sûr, le propriétaire n'en voulait pas, ou je ne sais pas si le propriétaire en voulait ou non. Ils ne sont pas à l'église. Peut-être mangent-ils des souris. Mais il est remarquable que le chat ait pu observer que les humains cuisinent sur des cuisinières, et voulu apporter un cadeau à l'humain et l'ait ajouté à la soupe qui mijotait. Ces animaux ont une intelligence. Ils sont les compagnons des humains depuis des milliers d'années, depuis la nuit des temps, depuis la première semaine de la création décrite dans la Genèse. Que ce soit pour la compagnie, la nourriture, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ou encore plus dans le passé, le travail, ils ont toujours été là. Le travail faisait partie intégrante de la vie humaine. L'interaction entre les animaux et les humains, devrais-je dire, faisait tellement partie intégrante de la vie professionnelle que nous utilisons encore aujourd'hui le terme cheval-vapeur pour désigner la puissance d'un moteur. Il a tant de chevaux-vapeur. Cela fait référence à la capacité de travail des chevaux d'autrefois. La vie animale est inextricablement liée à la vie humaine. Passons à l'Apocalypse, chapitre 4. Il n'est pas surprenant que le Dieu qui a créé les humains et les animaux nous dise cela dans le chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous voyons une image de la salle du trône de Dieu dans les cieux. Commençons par le début. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après cela. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, un trône était établi dans le ciel, et quelqu'un était assis sur ce trône. Nous avons donc une image du Père sur son trône dans les cieux et de ce qui se trouve autour de son trône. Celui qui était assis sur le trône était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il y avait autour du trône un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il y avait autour du trône 24 sièges, et sur ces sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur leur tête des couronnes d'or, un mystère que nous avons compris relativement récemment dans l'Église de Dieu. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Et devant le trône brûlaient sept lampes de feu, qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait une mer creusée de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Les êtres vivants en présence de Dieu pourraient donc avoir tout ce qu'ils veulent dans sa salle du trône, mais nous voyons ces quatre êtres vivants présents. Le premier être vivant était semblable à un lion. Il n'y a pas de mystère ici. Nous parlons de créatures ressemblantes à des animaux. La première bête était semblable à un lion, la deuxième bête était semblable à un veau, la troisième bête avait un visage comme celui d'un homme, et la quatrième bête était semblable à un aigle en vol. Et les quatre bêtes avaient chacune six ailes autour d'elles. Elles étaient pleines d'yeux à l'intérieur. Et elles ne se reposaient ni jour ni nuit, disant, « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand ces bêtes rendent gloire, honneur et grâce à celui qui est assis sur le trône, qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, y compris les animaux, et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dieu apprécie donc les animaux tout comme nous. Il semble y avoir des animaux permanents au ciel. Je ne connais pas le statut exact de ces quatre bêtes. Il y a un certain mystère autour d'elles, mais il est clair que Dieu apprécie les animaux. Il nous les a donnés pour une raison. Et l'une des raisons pour lesquelles il nous a donné les animaux était de nous enseigner de précieuses leçons tirées de la création. Les hommes tirent des leçons des animaux depuis la nuit des temps. Nous allons parler aujourd'hui des leçons que nous enseignent les animaux. J'ai donné un sermon à ce sujet il y a quelques années. Il s'agit en quelque sorte de la deuxième partie. Nous y reviendrons dans quelques instants, mais tout d'abord, voici quelques leçons que les hommes, coupés de Dieu, ont tirées des animaux à travers l'histoire. Ces leçons sont puissantes, car ces animaux ont été créés par l'esprit d'un créateur intelligent, ils possèdent donc une certaine sagesse inhérente. Nous pouvons apprendre certaines caractéristiques de leur personnalité, et nous finirons par comprendre que nous devrions les leur emprunter. Parfois, ce sont des choses à imiter, parfois ce sont des choses à éviter, mais même les hommes coupés de Dieu l'ont compris. J'ai trouvé un article sur Internet, 40 animaux qui ont changé l'histoire, sur historycollection.com, et j'en ai sélectionné deux ou trois pour vous les présenter et vous montrer l'impact profond que les animaux peuvent avoir sur l'existence humaine. Je vais vous lire le premier. Les coqs de combat qui ont inspiré les soldats grecs à sauver leur pays des Perses. C'est important. La bataille du Marathon. Vous avez probablement entendu parler du marathon. Eh bien, ce terme trouve son origine dans une course qui s'est déroulée, je crois, entre Marathon, la ville de Marathon à Athènes, et qui a été rendue célèbre par cette bataille, une course qui a eu lieu pendant cette bataille. Le grand général grec Thémistocle est surtout connu pour avoir été commandant lors de la bataille du Marathon. En 490 avant Jésus-Christ, cette bataille a vu les Grecs vaincre les Perses et a marqué un tournant dans les guerres gréco-perses. Nous comprenons cela d'un point de vue spirituel, mais il est étonnant de constater que ces deux puissantes factions, les Grecs et les Perses, ont tiré une leçon d'un animal qui a contribué à façonner ce conflit. Selon l'historien Eulian, cependant, Thémistocle a bénéficié d'une aide surprenante. Alors qu'il menait ses hommes à Marathon, il a aperçu deux coqs de combat et a improvisé un discours devant ses troupes. Nous avons déjà vu des combats de coqs. Nous savons à quel point ces oiseaux peuvent être féroces. Il a déclaré, « Ceux-ci prennent ce risque, ni pour leur pays ni pour les dieux de leur pays, mais pour ne pas être vaincus ou céder l'un à l'autre. » En d'autres termes, ils ne se battent pas pour Dieu. Ils ne se battent pas pour leur pays. Ils ne veulent tout simplement pas perdre. C'est ainsi qu'il a rallié ses hommes avant cette bataille décisive. Les paroles de Thémistocle ont certainement fait leur effet. Aujourd'hui encore, les hommes opposent des coqs les uns aux autres, des chiens les uns aux autres. Ma femme s'est rendue en Chine avant de rejoindre l'église, et elle a assisté à des combats de grillons. Ces combats sont pris très au sérieux en Chine, à tel point que les vainqueurs, les grillons victorieux, sont enterrés dans des cercueils faits à la main, tandis que les perdants sont mangés par leurs propriétaires en signe de honte. Elle a vu de petites salles de sport où les grillons disposent de petites haltères et de machines pour se muscler en vue du combat. Nous pouvons tirer des leçons de ces bêtes brutales. Je ne sais pas si une sauterelle ou un criquet est une bête brutale, mais nous pouvons tirer des leçons de ces animaux qui se battent, tout comme ce général grec qui utilisait les combats de coqs pour inspirer ses troupes. Voici un exemple auquel nous ne pensons pas forcément. Nous savons qu'il y a eu une grande famine à l'époque de Mao sous le régime communiste, mais cela était en partie dû à sa perturbation de l'écosystème, car Dieu a conçu ces animaux pour qu'ils travaillent très soigneusement, les uns avec les autres et avec nous, afin de maintenir l'ordre des choses stable. En 1958, le président Mao a déclaré la guerre à un ennemi improbable. Remarquant que de minuscules moineaux volaient fréquemment un peu de grain, il y a eu une occasion d'augmenter la production céréalière. Les oiseaux sont des animaux publics du capitalisme, a rugi le gouvernement de Mao, lançant une campagne pour les exterminer. Les chasseurs professionnels et les gens ordinaires ont pourchassé les moineaux, entraînant la mort de nombreux oiseaux par épuisement. Les gens détruisaient leurs nids et cassaient leurs œufs. Malheureusement, Mao ne s'est pas rendu compte que les moineaux mangeaient également des insectes qui causaient beaucoup plus de dégâts à l'agriculture. Le déséquilibre écologique qui en a résulté a exacerbé la grande famine chinoise, qui a tué entre 15 et 45 millions de personnes. Lorsque tout fonctionne correctement dans la nature, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Récemment, j'ai remarqué un trou dans ma propriété d'où sortaient quelques guêpes jaunes. J'ai demandé conseil à Monsieur Denis, qui s'y connaît en la matière, « Dois-je y verser des produits chimiques? Dois-je essayer de le recouvrir de terre? Que dois-je faire ?» Il m'a répondu, « Laissez-le tel quel. Un animal va s'y installer et détruire complètement le nid. » J'ai alors remarqué que très peu de guêpes jaunes sortaient. Et effectivement, à moins de 3 mètres du trou, j'ai trouvé un nid complètement détruit qu'un animal avait creusé, arraché et détruit. La création de Dieu à l'œuvre. Voici donc la deuxième partie des leçons tirées des animaux. Je crois que ce sermon s'intitulait « Considérer la fourmi », et je n'ai même pas abordé le sujet des fourmis. Nous allons donc le faire aujourd'hui, mais les leçons tirées des animaux, les choses que nous pouvons apprendre de la sagesse que Dieu a mise dans les animaux. Nous reviendrons brièvement sur le premier livre des rois, que nous avons abordé dans la première partie, au chapitre 4, et nous verrons à quel point il est précieux de comprendre le comportement de ces animaux, le comportement de ces bêtes, les leçons qu'ils nous enseignent. Premier livre des rois, chapitre 4, verset 29. Et Dieu donna à Salomon une sagesse et une intelligence extraordinaires, et une grande ampleur, c'est-à-dire une grande largeur de cœur, d'esprit, d'intelligence, de capacité, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Sa pensée était aussi vaste que le sable sur le bord de la mer, qui ne peut être compté. Il existe des estimations, mais il est impossible de le compter. Verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les enfants du pays de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Car il était plus sage que tous les hommes, plus sage qu'étant les Israélites, que Eman, que Calcol et que Darda, fils de Maol, et sa renommée s'étendait dans toutes les nations environnantes. En quoi était-il sage? Comment se manifestait sa sagesse? Qu'est-ce qui a permis, par exemple, à la reine de Séba de comprendre qu'il avait une grande intelligence? Quelles étaient certaines des preuves de sa sagesse? Il composa 3000 proverbes, verset 32, et ses chants furent au nombre de 1005. Il parlait des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui pousse sur les murs. Il parlait aussi des bêtes, des oiseaux, des reptiles et des poissons. Tous les peuples venaient écouter la sagesse de Salomon, tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Il parlait beaucoup des animaux. Beaucoup de ses paraboles, proverbes qu'il a consignés sur les animaux, ou plutôt proverbes, sont consignés dans les livres qu'il a écrits, que Dieu lui a inspirés. Cependant, il a beaucoup parlé, et je pense qu'il n'y a que 800 proverbes consignés dans le livre des proverbes, alors qu'il en a dit, selon le texte, 3000. Salomon possédait donc une grande sagesse qui n'a même pas été consignée dans la Bible, et qui concernait les arbres, les bêtes, les oiseaux, les reptiles et les poissons. Cela n'est pas surprenant, étant donné que Dieu a placé l'humanité sur terre pour forger son caractère, pour grandir et pour apprendre des leçons. Il a donc intégré certaines caractéristiques dans la création dont l'humanité pouvait tirer des enseignements. C'est assez simple, assez facile à comprendre. Et tous les peuples sont venus écouter la sagesse de Salomon, tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les animaux ont de la sagesse. Point final. Cela peut sembler étrange à entendre, mais ils ont leur propre forme de sagesse. Ouvrez votre Bible au chapitre 39 du livre de Job. Il s'agit en fait de sagesse, et nous ferions bien d'apprendre de la sagesse qu'ils détiennent. Job 39, verset. Reprenons au verset 9. La licorne se laissera-t-elle mettre au service de l'homme, ou restera-t-elle près de sa crèche? Je pense qu'il s'agit d'un taureau, et non d'une licorne au sens où on l'entend dans le folklore occidental. Peux-tu attacher la licorne avec son licou dans le sillon? Ou laboureras-t-elle les vallées après toi? Lui feras-tu confiance, parce que sa force est grande? Où lui confieras-tu le travail? Dieu pose ces questions à Job pour montrer sa prééminence sur l'homme. Croiras-tu qu'il ramènera ta semence et la rassemblera dans ton grenier? As-tu donné de belles ailes aux paons? Ou des ailes et des plumes à l'autruche? L'autruche qui laisse ses œufs dans la terre et les réchauffe dans la poussière. Voici donc une autruche qui laisse simplement ses œufs dans la terre et ne leur construit pas vraiment de nid, ne les protège pas, et oublie que le pied peut les écraser, ou que la bête sauvage peut les briser. Ailleurs dans ce chapitre, je crois qu'il est dit que le faucon vole grâce à sa sagesse. Mais voici l'anti-exemple, et oublie qu'un pied peut les écraser ou que la bête sauvage peut les briser. Elle est endurcie envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas les siens, Son travail est vain, sans crainte. Pourquoi est-elle stérile par rapport aux autres animaux? Pourquoi prend-elle ces mauvaises décisions? Commet-elle ces graves erreurs par rapport aux autres animaux? Verset 17. Parce que Dieu l'a privée de sagesse, il ne lui a pas non plus donné d'intelligence. Incroyable. Cela implique qu'il existe certains autres animaux qui ont de la sagesse, qui ont de l'intelligence. Nous le voyons ailleurs dans le chapitre, je crois que j'ai abordé ce sujet il y a 4 ans ou peu importe depuis combien de temps, mais l'autruche a été privée de sagesse. Elle n'a pas été de compréhension, donc elle prend de mauvaises décisions. Quand elle s'élève dans les hauteurs, elle méprise le cheval et son cavalier. Il n'est donc pas étonnant que, si nous revenons au célèbre récit sur les animaux, où nous pouvons tirer des leçons, que nous avons établies, Proverbe 6:6, il n'est pas étonnant que Dieu dise ce qui suit. Si les animaux ont de la sagesse, certains animaux ont de la sagesse, certains animaux ont un manque de sagesse, et nous devons apprendre d'eux, il n'est pas étonnant que Dieu dise cela. Proverbe 6:6, le célèbre va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies, et deviens sage, apprends la sagesse de la fourmi, dit Dieu, considère ses voies et deviens sage. Considérer peut être traduit par te conseiller, prêter attention, discerner. Tu dois étudier quelque chose pour en discerner les leçons. Tu dois connaître le mode de fonctionnement pour te conseiller ou prêter attention. Observe la fourmi. Observe ses voies et deviens sage. Réfléchis-y. Apprends-en davantage à ce sujet. De nos jours, les gens restent la plupart du temps à l'intérieur. Ils ne passent plus autant de temps dans la nature. La pêche a cédé la place aux jeux vidéo pour les jeunes, à la télévision, à la chasse ou même au camping, etc. Les gens ont perdu un lien important avec la nature, mais j'ai dit dans la première partie que nous reviendrions sur la fourmi. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là, mais mieux vaut tard que jamais. La qualité que nous pouvons apprendre de la fourmi est la diligence. La diligence. Maintenant, comment vais-je aborder les autres animaux? Je vais d'abord présenter une leçon, puis révéler de quel animal il s'agit, mais dans ce cas particulier, pour le premier animal que nous allons examiner, je vais inverser la procédure, je vous dis que c'est la fourmi, et nous allons apprendre la diligence de la fourmi. Quelle est l'importance de la diligence? Quelle est son importance? Proverbe 12. Quelques chapitres plus loin, Proverbe chapitre 12. Si nous sommes capables d'observer le comportement de la fourmi et d'être sages, nous pouvons comprendre ce que signifie être diligent, et la récompense de la diligence est extraordinaire. Proverbe 12:24. La main des diligents dominera, mais les paresseux seront assujettis. Maintenant, nous sommes quelques-uns à exercer l'autorité dans cette vie. Nous pourrions certainement être promus. On pourrait nous confier plus de responsabilités, mais en fin de compte, si nous sommes diligents dans cette vie, nous exercerons l'autorité dans le royaume, d'abord le royaume d'Israël, puis le royaume de Dieu. Mais seulement si nous sommes diligents, seulement si nous observons les voies de la fourmi et faisons preuve de sagesse. Nous verrons dans quelques instants à quel point les fourmis sont ingénieuses, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la nécessité d'être diligent afin de régner dans le royaume. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Les fourmis travaillent tranquillement. Elles n'annoncent pas leur arrivée. En fait, si elles le faisaient, nous appellerions l'exterminateur ou nous mettrions du borax ou nous les tuerions avec un spray. Elles travaillent tranquillement et avec diligence en arrière-plan. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, Vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites envers tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, à le faire de plus en plus, et à vous appliquer à être tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. Soyez simplement diligents. Soyez des êtres humains efficaces dans cette vie. Allez travailler. Soyez productifs. Afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de rien. Ne soyez pas bruyants, soyez des citoyens productifs. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, nous en avons entendu parler un peu dans la dernière partie de la série de sermons. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, cela devait être un thème ou un problème à Thessalonique si Paul avait dû leur demander dans le premier livre de s'occuper de leurs affaires et de travailler de leurs mains. Mais ici, dans le deuxième livre aux Thessaloniciens, il revient sur ce thème, « Nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et qui ne suit pas la tradition qu'il a reçue de nous. » Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous ne nous sommes pas conduits de manière désordonnée parmi vous, ni manger gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé et peiné nuit et jour, c'est-à-dire en travaillant sans relâche, sans interruption. Il y a une dizaine d'années, j'ai entendu une question sur les fourmis qui m'a fasciné. J'avais l'intention de la poser à la fin de ces écritures, mais elle trouve tout à fait sa place ici. Combien une fourmi récolte-t-elle? Et vous savez, vous y réfléchissez, vous essayez de quantifier, peut-être plusieurs fois la taille ou le poids de son corps. J'ai entendu dire qu'elles peuvent porter 10 fois leur poids, alors vous faites peut-être des calculs de ce genre. Mais non, la réponse est, autant qu'elle le peut. Combien une fourmi récolte-t-elle? Autant qu'elle peut. Elle continue simplement à travailler. Tant qu'il y a une possibilité d'être productive, elle est productive. Nous devons être productifs tout en gardant un équilibre. Nous ne pouvons pas nous épuiser. Il y a le repos du sabbat, et il y a aussi le repos naturel pendant la journée. Mais c'est une question étonnante. Combien une fourmi récolte-t-elle? Autant qu'elle peut. J'ai appris cela à l'école. J'y ai médité. J'y pense chaque fois que je vois des fourmis, si j'en ai l'occasion. Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter, puisque nous ne nous sommes pas conduits de manière désordonnée parmi vous, ni manger gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé et peiné nuit et jour, afin de ne pas être à la charge d'aucun de vous. Paul était fabricant de tentes, ce qui lui permettait de compléter ses revenus. Non pas parce que nous n'en avons pas le pouvoir, mais pour vous donner l'exemple à suivre. Il était prêt, plutôt que de collecter la dîme et les offrandes comme cela aurait été plus approprié, à travailler également la nuit, en plus de prêcher aux frères, afin de leur donner l'exemple. Écoutez, je suis prêt à travailler de mes mains, frère. Vous devriez en faire autant. Il n'était pas hypocrite. Il montrait l'exemple, en disant, « D'accord, je vous dis de travailler. Je vous ai ordonné de travailler de vos mains la dernière fois que j'étais ici, ou peu importe quand c'était. Écoutez, je suis prêt à le faire, non pas parce que nous n'avons pas le pouvoir, mais pour vous donner l'exemple à suivre. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette règle, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Vous venez d'entendre que dans le royaume, le chômage sera très faible, car celui qui ne travaille pas ne mangera pas. La diligence est cruciale, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de prière personnelle ou dans notre étude de la Bible. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Observez les voies de la fourmi et soyez sages. 2, 15. Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Cela demande des efforts. Comme pour tout ce qui est important dans la vie, cela demande des efforts, de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, a dit Christ lorsqu'il nous a enseigné comment prier. C'est une quête quotidienne. Paul a dit, persévérez dans la prière. Priez sans cesse. Cela demande du travail. Cela demande des efforts. Cela demande d'avancer constamment, de produire constamment, d'être productif comme ces fourmis qui travaillent sans relâche, sans fatigue. Et Dieu, dans son amour, nous a donné l'exemple de la fourmi, a inspiré l'homme le plus sage qui ait jamais vécu pour nous dire de considérer la fourmi, vous savez, qui rassemble sa nourriture en saison afin d'en avoir suffisamment pendant l'hiver. Il y a d'innombrables leçons que nous pouvons tirer d'elle si nous les considérons. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Quelle est l'importance de la diligence que nous enseigne la fourmi? Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 2. Souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les saints prophètes, et du commandement de nous, les apôtres du Seigneur et Sauveur. Sachant d'abord que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement que, par la parole de Dieu, les cieux ont été créés depuis longtemps, et que la terre, sortie de l'eau et formée par l'eau, a péri, submergée par l'eau. Mais les cieux et la terre qui sont maintenant sont conservés par la même parole, réservés pour le feu contre le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Il met le jour du Seigneur sur la table, en disant, « Regardez, cela va arriver. Prenez garde. » Mais, bien-aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose, qu'un jour est comme 1000 ans auprès du Seigneur, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments seront dissous par une chaleur ardente, la terre et les œuvres qui s'y trouvent seront brûlées. Voyant donc que toutes ces choses doivent être dissoutes, sachant que cette grande destruction vient, sachant que ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre viennent, connaissant le plan de Dieu. Voyant donc que toutes ces choses doivent être détruites, quelle sorte de personne devez-vous être dans une sainte conduite et dans la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés seront détruits, et les éléments embrasés se dissoudront? Néanmoins, selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous devons être diligents pour rendre notre appel et notre élection certains. Dieu n'est pas lent. Nous ne pouvons donc pas l'être non plus. Nous avons commencé dans Proverbes 6 verset 6, en considérant la sagesse de la fourmi, mais plus loin, dans le chapitre 30, Salomon parle également de la fourmi. Proverbes chapitre 30, verset 25. Proverbes 30, verset 25. Les fourmis sont un peuple sans force, à poids égal, elles sont très fortes, mais comparativement très faible. Les fourmis sont un peuple peu fort, mais elles préparent leur nourriture pendant l'été. Elles sont diligentes dans leur travail. Elles planifient à l'avance. Elles ne manquent de rien. Elles sont productives, tout comme nous devons l'être. Il y a beaucoup de leçons à tirer de la fourmi, trop pour les aborder toutes ici, mais voici quelques faits fascinants auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, et qui font partie de la nature de la fourmi. Il y a certaines choses dont nous devons tirer des leçons et d'autres que nous ne voulons pas imiter, mais ces créatures ont beaucoup plus à offrir sur le plan mental, si je puis m'exprimer ainsi. Instinctivement, elles possèdent une sagesse innée que nous ne pouvons discerner sans l'étudier. Et aujourd'hui, grâce à l'avènement de la science moderne, je dirais que nous comprenons mieux ces créatures que quiconque avant nous. Nous n'avons donc vraiment aucune excuse. Les fourmis sont incroyablement fortes, j'ai déjà abordé ce sujet. Elles sont très communicatives. Quand on les observe, elles se déplacent presque à la manière d'une armée, marchant en rang serré depuis leur nid. Elles n'ont pas d'accident de la route comme les êtres humains. Chacune connaît son rôle et le remplit. Saviez-vous que les fourmis sont également des agricultrices? Cette information provient du site westernexterminator.com. Les exterminateurs en savent beaucoup sur ces créatures, tout comme les scientifiques. L'une des leçons qu'ils ont soulignées est que les fourmis sont des agricultrices. Vous vous dites peut-être, quoi? Dit l'auteur. Mais c'est vrai, outre les humains, les fourmis sont les seules créatures qui exploitent d'autres créatures. Incroyable. Tout comme nous élevons des vaches, des moutons, des cochons, des poulets et des poissons afin d'obtenir une source de nourriture, les fourmis font de même avec d'autres insectes. Le cas le plus courant est celui des pucerons. Les insectes protègent les pucerons de leurs prédateurs naturels et les abritent dans leur nid pour les protéger des fortes pluies afin d'obtenir un approvisionnement constant en mielate. Incroyable! Elles sont prêtes à coopérer avec un autre insecte afin de faire du troc. Nous vous offrons un abri, vous nous apportez du miel. Incroyable! Une forme de symbiose unique dans le règne animal. Elles sont également esclavagistes, ce qui n'est pas quelque chose dont nous aimerions nous inspirer. Cela peut sembler étrange, mais écoutez-nous jusqu'au bout. Certaines espèces de fourmis, comme la Polyergus lucidu, sont connues pour être des esclavagistes. Elles envahissent les colonies voisines, capturent leurs habitants et les forcent à travailler pour elles. Ce processus est connu sous le nom de raids esclavagistes. Les fourmis esclavagistes sont spécialisées dans le parasitage d'une seule espèce ou d'un groupe d'espèces apparentées, qui sont souvent des proches parents. Les fourmis capturées travaillent comme si elles étaient dans leur propre colonie, tandis que les fourmis esclavagistes se concentrent uniquement sur le renouvellement de leur main-d'œuvre. Vous avez donc ici des fourmis qui ont décidé. C'est incroyablement ingénieux. Mais ce n'est pas quelque chose que nous voudrions apprendre des fourmis. Peut-être pourrions-nous tirer quelques leçons de gestion de la fourmi à cet égard. Mais voici un groupe de fourmis qui a décidé de ne plus faire son travail habituel. Elles vont partir à la chasse à d'autres fourmis et les forcer à travailler pour elles. Et cela marche tellement bien qu'elles ne travaillent même plus à leur côté. Nous allons simplement nous consacrer à capturer sans cesse de plus en plus de fourmis et à agrandir la colonie. Incroyable! Cela n'a pas évolué. Les fourmis esclavagistes se présentent sous deux formes, les parasites sociaux permanents et les esclavagistes facultatifs. Les parasites sociaux permanents dépendent des fourmis asservies tout au long de leur vie, contrairement aux esclavagistes facultatifs. Prochain animal, et je ne vais pas vous donner le nom de l'animal. Vous serez probablement capable de deviner la plupart d'entre eux, mais le prochain animal sera abordé. Le chapitre 4, verset 18, de l'Évangile selon Matthieu vous mènera à l'animal en question. Voyez si vous pouvez deviner, peut-être, dès le début dans certains cas. Je garderai peut-être le mystère dans d'autres, mais chapitre 4, verset 18, de l'Évangile selon Matthieu. Il y a beaucoup à considérer avec les fourmis, bien au-delà de ce que j'ai abordé ici. Nous pouvons apprendre beaucoup de la nature des fourmis telle que la science l'a découverte, bien au-delà de ce que Salomon a rapporté. Matthieu chapitre 4, verset 18. Jésus, marchant au bord de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Nous devons suivre Dieu en toutes circonstances. Nous devons être des disciples du Christ et, en fin de compte, des disciples du Père. Christ leur a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Et un scribe vint, verset 19, et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. Je suis prêt à te suivre. » Peut-être avait-il entendu cette conversation, et il n'aurait pas entendu celle du chapitre 4, « Mais je suis prêt à te suivre. » Christ explique que le seuil pour le suivre est élevé. C'est un défi de le suivre. Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. Pour me suivre, vous devez me mettre en premier, expliquait-il. Rien ne peut s'y opposer. Le fait est, mes frères, que nous devons suivre Dieu à tout prix. Rien ne peut s'y opposer. Rien ne peut être plus important que cette quête principale, que de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et à la base de cela, il y a le fait de suivre. Suivre. Les chrétiens suivent. Chapitre 9, verset 9. Et comme Jésus passait de là, il vit un homme, nommé Matthieu, assis au bureau des impôts, et il lui dit la même chose qu'il a dite à ces autres personnes, encore et encore et encore, et il lui dit « Suis-moi, parce que les chrétiens sont des disciples. » Et il y a un animal, vous devinez probablement lequel, qui enseigne cette leçon de manière très puissante. Et il se leva et le suivit, le même mot répété encore et encore. Matthieu 16. Nous sommes dans Matthieu pour souligner ce point. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Laissez tout ce qui se passe dans votre vie, mettez-le au second plan, suivez-moi. Prenez votre croix, prenez votre fardeau, quoi qu'il en coûte, et suivez-moi. Christ l'a répété à maintes reprises à son auditoire. Il nous le répète à maintes reprises au nom du Père. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui suit ses propres intérêts dans la vie finira par la perdre, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, en me suivant, la trouvera. Que sert un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 19, chapitre après chapitre, suivez-moi, suivez-moi. Que ce soit les masses, les apôtres, les disciples, le message était le même quel que soit le public. Matthieu 19, 16. Et voici, un homme s'approcha et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a personne qui soit bon, sinon Dieu seul. Mais si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ? » Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même, expliquant comment le suivre. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ? Je respecte les commandements, ce bon garçon juif. Je respecte les commandements. Que me manque-t-il ? Que dois-je faire de plus ? Et voici la discussion sur ce qui est commun, mais c'est bien plus que cela. » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » Il y a beaucoup de conditions préalables pour suivre Dieu, beaucoup de conditions préalables pour suivre pleinement Christ. La Bible nous dit à maintes reprises de suivre Dieu parce que, mes frères, nous sommes des brebis. C'est l'animal auquel je faisais allusion. Vous l'avez probablement deviné. Peut-être pas. Nous sommes des brebis, Jean chapitre 10. Dieu nous a donné des brebis en partie pour nous enseigner des leçons extraordinaires. Christ est appelé l'agneau de Dieu, mais nous sommes des brebis. Nous sommes des brebis. Jean chapitre 10. Je suis le bon berger, verset 11. Dit Christ, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais il est aussi une brebis, l'agneau de Dieu, donne sa vie pour ses brebis. Mais celui qui est mercenaire, et qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les saisit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Les brebis suivent les bergers. Les brebis suivent sans hésitation les bergers. Elles peuvent parfois s'éloigner d'elles-mêmes. J'ai raconté cette histoire il y a très longtemps, lors d'une réunion de L. C'était probablement dans un sermon. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans un sermon, mais j'ai eu l'occasion un jour de garder des moutons avec, je crois, un parent éloigné ou un parent par alliance au Liban, et il avait une façon très particulière de garder les moutons. C'était en fait étonnant. Il avait des bergères allemands qui l'aidaient comme chien de berger. Les moutons sortaient pour paître, et il m'a expliqué que certains d'entre eux avaient tendance à s'éloigner. Ils ne faisaient pas attention. Et ce qu'ils faisaient était incroyable. Ils n'avaient pas de bâton de berger ni rien de ce genre. Ils ramassaient une pierre, et c'était incroyable. Je veux dire, cela, on voit la précision avec laquelle les joueurs de la World Series lancent la balle, mais cet homme était incroyable. Il prenait la pierre, et même si les moutons étaient assez loin, il la lançait en l'air et elle atterrissait non pas sur les moutons, mais effleurait juste le bord extérieur de leur toison, et les moutons revenaient alors vers le reste du troupeau et se mêlaient à nouveau aux autres. C'était incroyable. Incroyable. Mais elles ont juste besoin d'être guidées. Parfois, elles s'égarent, mangent des choses toxiques, ont besoin d'être soignées. Ce sont des animaux extrêmement exigeants qui, s'ils ne suivent pas leur berger, finiront certainement par devenir le repas d'un autre animal, mourront dans une fosse ou mourront de froid. Toutes sortes de choses peuvent leur arriver. Nous allons tirer quelques leçons des moutons après avoir ouvert le psaume 23. Je devrais plutôt dire quelques faits scientifiques sur les moutons. Tout d'abord, ouvrons le psaume 23. Si nous suivons Dieu, si nous sommes de bons moutons, si nous faisons de notre mieux pour revenir au bercail lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous serons pris en charge. Le psaume 23. peut-être le plus célèbre de tous. Le psaume 23, verset 1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si nous suivons Dieu correctement, nous ne manquerons de rien. Il peut nous permettre de traverser certaines épreuves physiques, mais en fin de compte, nous ne manquerons de rien. En fin de compte, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En fin de compte, il pourvoira à tous nos besoins. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Si nous sommes de bons disciples, si nous imitons les brebis, si nous reconnaissons que Dieu nous dit que nous sommes des brebis et nous donne ensuite la leçon des brebis sur terre, les brebis physiques, et le fait que si elles ne comptent pas sur leur berger, elles périront. C'est une leçon puissante qu'il nous donne à travers un animal. Les brebis qui tombent ne peuvent pas se relever. Incroyable. Parfois au point d'en mourir. Un berger doit venir les chercher. Une leçon incroyable donnée par les brebis. Nous ne pouvons pas toujours nous relever nous-mêmes. Il faut que Dieu nous relève. Nous devons lui demander de l'aide, et alors il nous accorde le repentir, nous donne la force, nous inspire les prières dont nous avons besoin. Il ne veut pas que nous périssions, tout comme un berger physique ne veut pas que ses moutons périssent. Ils ont besoin d'aide. L'homme juste tombe cette fois, mais il se relève parce que le Seigneur l'aide à se relever. Dieu aide cet homme juste à se relever. Il nous aide, vous et moi, à nous relever lorsque nous tombons, car nous sommes des moutons. Nous le suivons. Maintenant, si nous décidons que nous ne voulons pas être relevés, alors c'est un tout autre problème. Ou bien, si nous nous éloignons constamment et ne voulons pas être retrouvés, eh bien, la leçon physique confirme ce qui va se passer. Nous périrons. Les moutons se perdent facilement. Ils ne sont pas comme cette vache dont j'ai parlé il y a des années, qui avait un sens de l'orientation incroyable. Les vaches peuvent retrouver leur chemin depuis des kilomètres. Les moutons ont un sens de l'orientation déplorable. Ils se perdent très facilement. D'où la nécessité de suivre le berger qui les précède, tout comme nous devons suivre Dieu pour éviter de nous perdre. Les moutons sont sans défense. Ils ne peuvent pas repousser les prédateurs. Ils doivent compter sur le berger. Dans le cas que j'ai mentionné, ils doivent compter sur le berger, qui avait probablement un fusil de chasse. Je ne me souviens pas de ce qu'ils transportaient, mais ils doivent compter sur le berger pour elles, les bergères allemandes, l'arme, le véhicule, la connaissance du terrain, la connaissance des endroits où se trouve la bonne nourriture, la connaissance des endroits où se trouve l'eau. Elles ne savent rien de tout cela. Elles dépendent entièrement du berger, tout comme nous devons dépendre entièrement de Dieu. Maintenant, il attend de nous que nous fassions certaines choses par nous-mêmes. Veillez sur vous-même, je crois que c'est ce que Jean a dit, mais veillez sur vous-même dans le cadre de ce que je vous ai enseigné. Soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, sur la base de ce que je vous ai enseigné, m'épuisez votre force en lui, disait Paul. Elles sont sans défense. Et les brebis. Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles reconnaissent vraiment les voix, une faculté étonnante de l'esprit des brebis, et elles s'attachent émotionnellement à ces voix. Tout comme nous nous attachons émotionnellement à Dieu, une brebis physique s'attache émotionnellement à son propriétaire, et elle peut s'attacher émotionnellement à la mauvaise personne si on la laisse faire. Les brebis ont besoin d'être guidées. C'est la leçon fondamentale ici. Les brebis suivent, et elles ont besoin d'être guidées. Incroyable. Passons à l'animal suivant. Encore une fois, je vais garder un peu de mystère, voyez si vous pouvez le deviner au fur et à mesure que nous avançons. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Premier épître de Pierre, chapitre 5. La Bible nous répète sans cesse que nous devons compter sur Dieu pour subvenir à nos besoins. J'aurais pu aborder les moutons sous cet angle, mais il existe un autre animal qui illustre parfaitement ce point. La Bible nous répète sans cesse que nous devons compter sur Dieu pour subvenir à nos besoins. Tout comme David l'a dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il existe un autre animal qui souligne ce point. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Nous allons reprendre la leçon avant de révéler l'animal et quelques faits scientifiques à son sujet. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Paissez le troupeau de Dieu qui est parmi vous, juste après nous sommes des brebis, surveillez-le, non par contrainte, mais volontairement. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur l'héritage de Dieu, mais en étant des modèles pour le troupeau. Et lorsque le bon berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, soyez tous soumis les uns aux autres, et revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, et donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun. Remettez-lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Comptez sur Dieu pour vos besoins, disait-il. Nous devons compter sur Dieu pour tous nos soucis, qu'ils soient physiques, émotionnels, spirituels, quels qu'ils soient. Nous devons lui confier tous nos soucis, car il prend soin de nous et pourvoira à tous nos besoins. Et il ne se contente pas de prendre soin de nous, il ne se contente pas de nous donner ce dont nous avons besoin, il anticipe nos besoins mieux que nous ne le pouvons nous-mêmes. Revenons au chapitre 6 de Matthieu. Il ne se contente pas de nous donner ce dont nous avons besoin, il anticipe nos besoins. Matthieu 6, verset 5. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, fais-le en privé, ne cherche pas la récompense de l'approbation. Oh là là, c'est un homme spirituel qui prie et fait ses bonnes œuvres. Non, fais-le en privé, dit-il. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Mais quand tu pries, n'utilise pas de vaines répétitions, comme les païens, qui pensent qu'ils seront exaucés parce qu'ils parlent beaucoup. Ne sois donc pas comme eux, car ton Père sait de quoi tu as besoin avant que tu le lui demandes. Il anticipe parfaitement nos besoins. Il nous inspire probablement à prier pour nos besoins. Incroyable! Non seulement il pourvoira à nos besoins, non seulement il nous donnera tout ce dont nous avons besoin, non seulement il répondra à toutes nos préoccupations, mais il les connaît avant même que nous les lui soumettions. N'est-ce pas réconfortant? Il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Nous devons compter sur Dieu pour tous nos besoins. Et il y a un animal qui illustre puissamment cela, nous y reviendrons. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Une promesse incroyable, difficile à appliquer, difficile de ne pas s'inquiéter et de ne pas se demander, et ce besoin-là, ou celui-là, très difficile. Cela fait partie du processus de croissance et de dépassement de soi que d'en venir à faire confiance à Dieu, à compter sur Dieu pour satisfaire tous nos besoins. Vous devinez peut-être de quel animal je parle. Je pense que celui-ci est plus difficile. Vous ne l'avez probablement pas deviné, mais peut-être que si. Peut-être pouvez-vous deviner de quel animal il s'agit. Probablement pas. Celui-ci est plus difficile, mais vous le découvrirez. Je vais vous le révéler dans un instant. L'animal est, ouvrez votre Bible à Luc 12, verset 22, où il est révélé dans cette écriture. Luc 12, verset 22, et il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. Car j'anticipe vos besoins. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. C'est l'animal qui nous enseigne à compter sur Dieu pour nos besoins. Considérez les corbeaux, car ils ne sèment ni ne moissonnent. Ce n'est pas qu'ils soient paresseux. Mais ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni grenier ni grange. Ils n'ont pas d'épicerie ni de réfrigérateur. Ni grenier ni grange, et Dieu les nourrit. Il prend soin de ses corbeaux. Il veille à ce que tous leurs besoins soient satisfaits. À combien plus forte raison valez-vous mieux que les oiseaux? Si Dieu est prêt à prendre soin des oiseaux, dit Christ, en particulier des corbeaux ici, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de vous, mes frères? C'est ce qu'il dit. Christ s'adresse à son auditoire. Psaume 147. Une fois encore, nous voyons que les corbeaux sont nourris. Psaume 147, c'est incroyable de voir à quel point les corbeaux sont pris en charge. Nous allons le lire dans un instant. Un autre verset explique que Dieu prend soin des corbeaux et prend vraiment soin de tous les animaux. Il les a créés. Et il est dit dans les Proverbes. Je pense que c'est dans les Proverbes, le juste prend soin de la vie de ses bêtes. Eh bien, Dieu prend soin de la vie de tout ce qui vit. Il n'aime pas quand l'écosystème est maltraité. Psaume 147, verset 9, il donne leur nourriture aux bêtes. Dieu nourrit les animaux, et aux jeunes corbeaux qui crient. Il crie pour avoir de la nourriture, probablement à Dieu, et il pourvoit à leurs besoins. Christ a dit que si Dieu est prêt à pourvoir aux besoins de ses oiseaux, de ses corbeaux, écoutez ces jeunes corbeaux qui crient, il prendra soin de vous. Il veillera à ce que vos besoins physiques soient satisfaits. Les jeunes lions rugissent. Psaume 104, excusez-moi, Psaume 104. Tous les animaux. Puisque nous en sommes là, regardons un autre exemple où Dieu pourvoit simplement aux besoins des animaux. Psaume 104, verset 21. Les jeunes lions rugissent après leur proie et cherchent leur nourriture auprès de Dieu. Ils savent d'une manière ou d'une autre d'où vient leur nourriture. Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de poésie. Il y a une certaine sagesse inhérente au règne animal. Je ne dis pas qu'ils ont les mêmes fonctions cognitives que nous ou quoi que ce soit de ce genre. Ne vous méprenez pas, mes frères. Mais il y a un génie dans la création dont nous pouvons tirer des leçons. Ceci est tiré du guide Au du bon des oiseaux d'Amérique du Nord et parle du comportement alimentaire et du régime alimentaire du corbeau, dont nous devons tirer des leçons. Si Dieu pourvoit aux besoins du corbeau, s'il peut pourvoir aux besoins du corbeau, à combien plus forte raison pourvoira-t-il à nos besoins? En général, ils cherchent leur nourriture en couple. Les deux oiseaux coopèrent parfois pour débusquer leur proie. Ils recherchent des nids pour manger des œufs ou des oisillons et sont opportunistes, profitant des sources de nourriture temporaire. C'est écrit en sténographie parce que cela provient d'un guide d'observation des oiseaux. Se nourrit principalement au sol, souvent comme charognard, à la recherche de cadavres d'animaux ou en visitant les décharges. En hiver, dans le nord de l'Alaska, On le voit se nourrir dans les décharges sous des lumières artificielles. Nous commençons donc à voir que cet oiseau a le buffet ultime, il peut manger n'importe quoi. Omnivore, il peut se nourrir de pratiquement n'importe quoi. Mais la majorité de son alimentation est constituée de matières animales. Il se nourrit d'une grande variété d'insectes, notamment de coléoptères, de chenilles et autres. Il mange également des rongeurs, des lézards, des grenouilles, des œufs et des oisillons d'autres oiseaux. Il mange régulièrement des charognes et des déchets. Je ne cherche pas à vous inspirer en disant que Dieu nourrit cet oiseau avec des déchets. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Le fait est que Dieu pourvoit aux besoins de cet animal et l'a fait de telle sorte qu'il peut manger n'importe quoi. En d'autres termes, ses besoins sont satisfaits. Christ a dit, « Regardez, Dieu nourrit les corbeaux. Il est plus capable de vous nourrir que de nourrir les corbeaux, et les corbeaux peuvent manger n'importe quoi sur terre. » Incroyable. Inspirant. Dieu pourvoit à leurs besoins, nous pouvons être sûrs qu'il pourvoira aux nôtres, et pas seulement en matière de nourriture, mais aussi en matière de logement, en tout, dans toutes les épreuves que nous traversons. Peut-être avez-vous récemment perdu votre emploi et êtes-vous dans une situation financière difficile. Il y a actuellement dans ce pays un grand nombre de personnes dont les allocations sont en train de s'épuiser. Et je suis sûr que certaines d'entre elles ont vraiment besoin de ces allocations et se demandent, d'où viendra mon prochain repas? Beaucoup profitent du système, mais certains l'utilisent correctement et se demandent légitimement, d'où viendra mon prochain repas? Eh bien, nous qui faisons partie de l'Église de Dieu, quelle que soit la manière dont il s'y prend, nous n'avons jamais à nous inquiéter à ce sujet. Dieu pourvoira à nos besoins, que ce soit par l'intermédiaire de l'Église, en nous donnant une opportunité d'emploi ou par un miracle. J'ai littéralement entendu des histoires de frères qui avaient faim et qui ont vu un sac de nourriture flotter sur la rivière devant eux. Lorsque nous servons un Dieu tout-puissant et capable de tout, il peut faire ce qu'il veut. Il peut nourrir les corbeaux comme il le souhaite, et il peut nous nourrir comme il le souhaite. Le dernier animal dont nous allons parler aujourd'hui, du moins nous pourrons en voir quelques exemples rapides à la fin, mais le dernier animal, très similaire aux deux derniers, en fait. Et la leçon que nous tirons de cet animal est que nous devons compter sur la protection de Dieu. Les moutons nous ont appris que nous devons suivre Dieu. Les corbeaux nous ont appris à compter sur Dieu pour subvenir à nos besoins. Voici un besoin très spécifique, nous devons compter sur la protection de Dieu, quelles que soient les circonstances. Psaume 62. Si vous avez deviné le dernier, vous êtes doué. Si vous pouvez deviner celui-ci, vous êtes meilleur que moi. Franchement, je n'aurais pas pu trouver celui-ci ni le dernier. Psaume 62, verset 1. Mon âme attend Dieu, c'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher et mon salut. Il est ma défense, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps imagineriez-vous du mal contre un homme? Vous serez tous tués, vous serez comme un mur qui s'effondre, comme une clôture qui chancelle. Regardez un mur de sous-sol, et si la pression hydrostatique pousse contre ce mur, vous commencez à voir apparaître des fissures horizontales, et finalement, si cette pression hydrostatique continue, le mur va se courber, et si rien n'est fait, il s'effondrera. D'abord, il commencera à paraître un peu convexe, puis il finira par paraître très convexe, et ensuite, il s'effondrera. Vous serez tous tués, vous serez comme un mur qui s'affaisse, comme une clôture qui chancelle. Ils s'effondreront, car leur rocher n'est pas Dieu. Il ne se concerte que pour le renverser de sa grandeur. Ils se réjouissent du mensonge. Ils bénissent de leur bouche, mais maudissent dans leur cœur. Mon âme, attends-toi seulement à Dieu, car mon espérance vient de lui. Je me tourne vers lui pour ma protection. Le psalmiste a dit, « Lui seul est mon rocher et mon salut. Il est ma défense. Je ne serai pas ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, et mon refuge est en Dieu. Encore et encore, je me tourne vers Dieu pour ma protection. Il est mon rocher. Il est mon refuge. Aie confiance en lui en tout temps. » Il existe un animal qui illustre bien cela. Vous tous, ouvrez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Il est notre abri. Les hommes de basse condition sont vanité, et les hommes de haute condition sont mensonge. Mis dans la balance, ils sont tous plus légers que la vanité. Ne vous fiez pas à l'oppression et ne vous vantez pas du vol. Si les richesses augmentent, ne mettez pas votre cœur en elles. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu cela, que le pouvoir appartient à Dieu. À toi aussi, ô Seigneur, appartient la miséricorde, car tu as rendu à chaque homme selon son œuvre. Voici un homme qui considérait Dieu comme son rocher, son refuge, son abri, sa protection physique, mais aussi spirituelle. Psaume 46. Nous savons à quel point ce thème du rocher est central dans la Bible. Voici le psaume 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes sont transportées au milieu de la mer, même si les eaux rugissent et s'agitent, même si les montagnes tremblent sous leur élan. Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint où réside le Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Nous recherchons une demeure fixe, mais pour l'instant, nous pouvons compter sur un être qui ne sera pas ébranlé, qui peut nous protéger de tout. Dieu la secoura dès le matin. Les païens se sont déchaînés, les royaumes ont été ébranlés, il a fait entendre sa voix, la terre a fondu. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge, notre abri. Venez, contemplez les œuvres du Seigneur, les dévastations qu'il a causées sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc et coupe la lance en deux. Il n'y a rien qu'il ne puisse gérer. Il brûle les chars dans le feu. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les païens. Je serai exalté sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge. Il est notre abri, notre secours dans les moments de détresse ou de besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 8, a dit cela avant de révéler l'animal. Romains chapitre 8, un autre passage illustrant que nous devons compter sur Dieu pour notre protection, compter sur lui pour notre refuge et notre abri, qu'il s'agisse de tempêtes physiques ou spirituelles qui se présentent sur notre chemin. Romains chapitre 8, verset 31. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, qu'est-ce qui peut s'opposer à nous et nous ébranler si Dieu nous protège? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut nous accuser, c'est Dieu. Dieu est aux commandes. Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui est mort, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous. qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, le péril, l'épée. Peu importe ce que nous devons endurer, et Dieu nous permet parfois d'endurer de grandes épreuves pour son amour, afin de forger son caractère en nous. Il y a un revers à la médaille. Il nous laissera sans rien si cela sert son intérêt et son plan. Comme il est écrit, « À cause de toi, nous sommes mis à mort tout au long du jour, nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir. » Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous comptons sur Dieu pour nous protéger, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et il existe un animal qui illustre parfaitement cela, un animal peu connu. Revenons au chapitre 30 du livre des Proverbes. Nous avons vu plus tôt que les fourmis y étaient mentionnées, mais deux versets plus loin, un autre animal est décrit. Proverbes, chapitre 30. Un animal qui reconnaît l'avantage d'avoir un abri solide, un refuge solide, un animal qui construit sa maison dans les rochers, un animal qui sait que rien ne peut l'atteindre s'il cherche correctement refuge, si son abri est au bon endroit. Proverbe 30, verset 24. Il y a quatre choses qui sont petites sur la terre, mais qui sont extrêmement sages. Revenons à cette autruche, elle était dépourvue de compréhension. Elle n'avait pas de sagesse. Mais il y a des animaux qui ne sont pas seulement sages, ils n'ont pas seulement de l'intelligence, ils sont extrêmement sages. Il y a quatre choses qui sont petites sur la terre, mais qui sont extrêmement sages. Les fourmis sont un peuple qui n'est pas fort, mais elles préparent leur nourriture pendant l'été. Nous l'avons vu. Les lapins sont un peuple faible, mais ils font leur maison dans les rochers. Les lapins. Le lièvre est un animal qui reconnaît le besoin d'un refuge, qui reconnaît le besoin d'avoir son habitation dans un rocher, tout comme nous devons reconnaître le besoin de prendre refuge sous les ailes de Dieu et dans le rocher ultime qu'est Dieu. C'est un peuple faible, mais il construit ses maisons dans les rochers. Aujourd'hui, le lièvre est également appelé, en anglais moderne, rock hyrax. Un hyrax est une sorte de lapin, également appelé dasi, hyrax du Cap ou lapin des rochers. Dans la Bible du roi Jacques, le cornu est un mammifère terrestre de taille moyenne originaire d'Afrique et du Moyen-Orient, communément appelé dasi en Afrique du Sud. Je ne sais pas si je prononce cela correctement, mais c'est le dasi ou le dasi. C'est l'une des cinq espèces vivantes de l'ordre des Iroquois, et la seule du genre telle est telle. Les dents des rochers pèsent entre 4 et 5 kilos, soit entre 9 et 11 livres. Ce sont de petits animaux, comme l'explique Salomon, avec des oreilles courtes et une queue. On trouve les dents des rochers à des altitudes pouvant atteindre 4200 mètres, soit 13800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Nous avons célébré la fête dans le Colorado, où nous avons pris l'avion pour Denver, la Mile League City. C'est deux fois plus haut. Et puis, dans la Mile League City, ils peuvent vivre et habiter au-dessus du niveau de la mer dans des habitats avec des crevasses rocheuses, ce qui leur permet d'échapper aux prédateurs. Ils comprennent la nécessité de vivre dans les rochers, tout comme nous devons comprendre la nécessité de vivre dans les rochers pour nous protéger. Ils sont les seuls afrotériens terrestres encore existants au Moyen-Orient. Les dents vivent généralement en groupe de 10 à 80 animaux et se nourrissent en groupe. On rapporte qu'ils utilisent des sentinelles pour avertir de l'approche des prédateurs, puis ils se précipitent dans les rochers. L'un d'entre eux monte la garde, et lorsqu'ils aperçoivent des prédateurs, ils se réfugient dans les rochers, tout comme lorsque nous rencontrons quelque chose, nous devons nous réfugier dans notre rocher. Il y a d'autres animaux dont nous pourrions parler, mes frères, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Nous allons simplement conclure par ce qui suit. Nous sommes ici dans le chapitre 30 du livre des Proverbes, verset -27. Il existe de très nombreux animaux dont nous pouvons tirer des enseignements, tant dans les Écritures qu'en dehors de celles-ci. Voici le verset 27 du chapitre 30 du livre des Proverbes, « Les sauterelles n'ont pas de roi, et pourtant elles marchent toutes en troupe. Que devons-nous en retenir ? Réfléchissez-y. L'araignée s'attache de ses mains. » Verset 28, « Et se trouve dans les palais des rois. Que devons-nous en retenir ? Je dirais, réfléchissez-y. Réfléchissons-y. Nous n'avons pas le temps de l'expliquer, réfléchissons-y. Réfléchissons et étudions par nous-mêmes. Il y a trois choses qui marchent bien, oui, quatre qui marchent avec grâce. Le lion, le plus fort parmi les bêtes, qui ne recule devant rien, le lévrier, le bouc, et le roi, contre lequel personne ne se soulève. Mais il existe toutes sortes d'animaux en dehors de la Bible. Par exemple, je suis fasciné par le fait que les requins, s'ils ne nagent pas constamment, meurent parce que l'eau ne passe pas à travers leurs branchies. Pourquoi Dieu a-t-il créé ce prédateur de telle sorte qu'il ne peut s'arrêter de bouger? Toujours actif. Incroyable. Leçon. Quelle leçon pouvons-nous tirer du requin, ou de n'importe lequel de ces autres animaux, ou de n'importe quel animal? Ils ont tous une sagesse, nous l'avons vu. Quelle sagesse devrions-nous tirer de ces animaux? Considérons le monde naturel, mes frères, que Dieu nous a donné, et tirons-en des leçons.